J'avais dit que ceux qui désirent lire dans Sénèque le livre sur la colère, pour Thomas d'Aquin, la colère est la passion la plus noble. Et c'est vrai, parce que c'est la passion la plus proche de l'intelligence, et c'est la passion qui a comme but de rétablir une certaine justice. Et en ce sens-là, elle dépasse un peu l'aspect passionnel. Elle est déjà un peu sous le point de vue de l'intelligence, de la raison, de la prudence. Parce que on se met en colère quand on est en face d'une injustice. Et on veut rétablir l'ordre. On a tous, je présume, des souvenirs assez curieux de notre enfance, de pions qu'on a mis en colère. Moi, j'en ai très grand comme ça. Je ne vous les raconterai pas. On l'avait surnommé Choléra, notre chien. Et je l'ai retrouvé plusieurs années après, quand j'étais entré dans l'ordre de Saint-Dominique. Alors, aumônier de la clique féminine. Alors j'ai compris, je lui ai dit, ah oui, vous avez quitté la surveillance de l'école. Oui, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Parce que on avait organisé des juges. Extraordinaire. Et je pourrais vous en raconter des histoires sur la colère, mais c'est vrai que c'est très très curieux. C'est très intéressant. Oui. Alors je lis simplement, mais je ne peux pas tout lire, parce qu'il faut ranger. Tu exiges de moi, novatus, que je traite des moyens de calmer la colère. Et c'est à juste titre que tu me parais redouter cette passion qui est plus que toute autre affreuse et enragée. C'est le cas de le dire, n'est-ce pas ? Rapidum, enrageux. Les autres, en effet, ont en elles quelque chose de tranquille et de paisible. Celle-ci est toute excitation, toute à l'impétuosité de son ressentiment. Elle brûle d'un désir inhumain de combat, de sang, de supplice, indifférente à elle-même, pourvu qu'elle nuise à autrui. Elle se précipite sur ses propres armes, avide d'une vengeance qui entraînera avec elle le vengeur. Donc Sénèque, stoïcien de la seconde époque, très rhéteur, vous voyez bien, c'est assez rhétorique, et qui considère que toutes les passions, mais surtout la colère, parce qu'elle est la passion des passions, c'est à supprimer ta vie. Il est son plaidoyer, hein, c'est un plaidoyer. C'est pourquoi certains sages ont dit que la colère était une courte folie, comme celle-ci en effet, elle ne sait pas se maîtriser, perd la notion des convenances, oublie tous les liens sociaux, s'acharne et s'obstine dans ses entreprises, ferme l'oreille au conseil de la raison, s'agite pour des causes futiles, incapable de discerner le juste et le vrai, et semblable aux ruines qui se brisent sur ce qu'elles écrasent. Si tu veux avoir la preuve que ceux qui dominent la colère n'ont pas leur bon sens, regarde leur extérieur. Ce sont des symptômes manifestes de la folie, que des yeux hardis et menaçants, un front sombre, une physionomie. imposant, vous voyez. Ce qui est beau, que quand on est sous la colère, on fait rire les gens. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très curieux dans la colère, quand vous voyez quelqu'un de sérieux. J'ai devant moi des représentations de colère. Quelqu'un de très sérieux, qui tout d'un coup se met en colère. Il perd sa dignité. Et alors, l'homme, vous voyez, l'homme, dans le sens pas toujours, se dévoile. Il n'y a plus de secret. Un homme en colère peut dire des tas de choses qui d'habitude les garde en secret. Puis tout d'un coup, il les jette comme ça, comme un venin. Alors, il a des comparaisons. Il y a longtemps, parce que je ne lis pas ça régulièrement, c'est bien ça, c'est le livre que j'avais à Fribourg, vous voyez. Mais comme je suis maintenant rentré dans la vie religieuse, c'est pas à Fribourg, j'étais professeur d'université, alors j'avais une bibliothèque française. Il a remis la bibliothèque ici, et je vois bien que je retrouve les signes que j'avais mis. mais tant que là, c'est pas d'un an, c'est le signe que vous vous aimez. C'est magnifique. C'est le bouquet de fleurs et le feu d'artifice. C'est quelque chose de merveilleux. Si vous étiez complètement indifférent, il n'y aurait pas de colère. Alors évidemment, de temps en temps, ça va un peu trop loin. On aimerait mieux que ce soit un peu moins loin. Mais avec des tempéraments forts. Parce que l'irascible, c'est des tempéraments forts. Et des tempéraments forts, ça peut aller très loin. Troisième degré. Troisième degré de vie. Il est propre à l'homme. C'est le développement de mon intelligence et le développement de ma volonté. Alors, regardons d'abord le développement de l'intelligence. Le propre de la connaissance intellectuelle, de la pensée, c'est que je conçois les réalités en cherchant leur signification. Vous voyez, l'imagination représente pensez au chat, vous représentez au chat tout de suite. Représenter. L'intelligence connaît et connaît la signification. Et je crois que c'est toujours là où on voit bien l'intelligence. Penser implique penser telle à telle chose, à telle réalité. Cette réalité, du fait même que je la pense, du fait même que je la connais, une signification. Oui. L'intelligence, donc, signifie la signification des choses. C'est ce qui caractérise le domaine de l'intelligence. Mais vous comprenez que le domaine de l'intelligence, c'est quasi infini. Et comprendre que l'intelligence comme telle est au-delà de tout le domaine physique, corporel. Alors là, il y a une distinction très importante à faire. La signification comme telle, vous connaissez, pensez à telle réalité, le champ. Le champ. Le chat, c'est un animal. Quand vous dites que le chat est un animal, c'est l'intelligence qui dit ça. Le chat ne dit pas. Le chat ne dit pas « je suis un animal ». Non, vous n'avez jamais vu ça. Oui. L'intelligence, je me connais, je dis « je suis ». Je dis, le chat est un animal. Animal a une signification universelle. Ah, c'est par là que je vois le point de vue de l'intelligence, au-delà de tout le domaine sensible, de tout le domaine particulier et individuel. Ça, nous constatons ça, et c'est pour ça que l'intelligence peut, par la signification universelle, inventer un langage. Parce que le langage présuppose des mots qui ont une signification universelle. La représentation, au contraire, n'est jamais universelle. Mais la représentation liée à une signification universelle me donne ce qu'on appelle le symbole. symbole implique représentation, implique signification. C'est une coopération de l'imaginaire et de l'intelligence. La connaissance symbolique. La connaissance symbolique, c'est le premier développement de mon intelligence. Un enfant vit dans le symbole. Quand il joue, il vous essaie d'entrer dans son jeu. Il vous explique tout. Et tout a valeur symbolique. De fait, quand vous commencez d'enseigner aux classes maternelles, vous prenez un langage symbolique. Le symbole est le passage de la représentation à la signification. Ça, c'est très intéressant. Et c'est, ça montre à la fois la continuité, il y a une continuité, et la diversité. Dans tout symbole, il y a une connaissance intellectuelle universelle. Le drapeau est symbolique. Il exprime quelque chose. Qui est le pays? L'amour qu'on a pour le pays. Il dépasse la représentation simple, matérielle, pour signifier quelque chose. Vous avez donc, voyez, le moment où vous découvrez le point de vue de la pensée, c'est le mode universel exprimé par le langage. Chez le petit gosse, d'abord, c'est papa, maman. Très particulier. Il met du temps avant de découvrir qu'il y a des hommes qui ne sont pas papa. Tout est papa. Il répète ça. Puis un jour, il découvre. J'ai demandé au psychanalyste s'il découvrait le moment où on passait l'universel, il me regardait des grands yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais oui, mais oui, parce que l'enfant, il dit papa, maman, il dira homme. Moi, je me souviens plus quel moment j'ai passé d'un à l'autre. Vous êtes tous passés par là. Le minet, c'est le chat. Putain, que dira le chat du voisin? Il dira que des minets. On passe du mot symbolique, vous voyez, à un mot signifié, universel. Et la science est basée sur l'universel. C'est l'universel, c'est la relation nécessaire entre deux phénomènes. Et la découverte de la science, c'est ça. Et au-delà de la science, il y a la sagesse. Oui, je crois que vous pouvez mettre, parce que ça donne comme une sorte de hiérarchie dans la vie de l'intelligence. Il y a d'abord le symbole. Prenez numéro 1. À l'intérieur du symbole, il y a représentation et puis universel. Puis 2. Des relations nécessaires, universelles. Donc vous avez la science, les connaissances scientifiques, les sciences. 2. Et voyez, l'art se situera au niveau de l'invention de nouveaux symboles. Troisièmement, le point de vue sagesse. Alors je précise, parce que c'est intéressant à voir, c'est une distinction très ancienne. Aristote qui l'a fait le premier. Une distinction que saint Thomas a repris au Moyen-Âge, elle était courante. Mais à partir de Descartes, elle a disparu. C'est la fameuse distinction pour préciser ce qu'est la vie de l'intelligence, puisque c'est ça que je cherche. Qu'est-ce que c'est que la vie de l'intelligence? C'est la vie de l'esprit. L'intelligence fait partie de l'esprit. Donc c'est la vie de l'esprit. C'est une vie qui est au-delà de l'imaginaire. Au-delà de l'imaginaire. C'est une vie qui essaie de connaître le réel, les réalités, l'homme. Et cette vie de l'intelligence, alors mettons de notre intelligence, va impliquer deux registres. Le registre rationnel de la raison et celui de l'intelligence. J'explique. Ça, c'est très, je crois ça très important. La raison, c'est notre mode humain d'être intelligent. Ça implique des raisonnements. C'est pour ça qu'on dit raison. La raison raisonne. C'est un vain de soi. Donc les raisonnements. Tous les raisonnements. La science, elle est faite de raisonnements. Des raisonnements divers du reste, mais elle est faite de raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent tout le temps et qui ne comprennent rien. Ça existe. Vous savez que je ne sais plus quel est ce poète italien qui a montré que quand on est fou, on perd l'intelligence, mais la raison prend tout. Les fous gardent une logique rationnelle. Ils raisonnent. Ils raisonnent de façon telle qu'au bout d'un certain temps, on entre dans leur raisonnement. On perd pied. Ils raisonnent. Ils savent plus très bien, parce que ça, c'est pas un seul plaisir pour être de raisonner. Il y a des gens qui raisonnent pour le plaisir de raisonner. Le raisonnement, la raison, c'est notre intelligence, qui est une intelligence qui, de fait, puise ses ressources dans l'imaginaire. C'est le devenir de l'intelligence, le raisonnement. C'est le devenir de l'intelligence. Tandis que l'intelligence, Saint Thomas dira, l'intelligence, c'est intus, intus legere. C'est lire de l'intérieur. Tandis que les raisonnements, c'est périphérique. Mais celui qui fait 50 fois le tour de Paris par le périphérique et qui dit je connais Paris, on dit les fous. Faites 50 fois le tour de Paris, périphérique. Si je connais Paris, mais non, vous avez fait le tour périphérique. Les raisonnements sont périphériques. Alors quand on pense être intelligent par qu'on raisonne, non, on raisonne. Mais on n'est pas intelligent. Intelligence, c'est intus legere, c'est dire de l'intérieur. C'est saisir la signification profonde des choses. Tandis que le raisonnement ne saisit pas la signification profonde des choses. Ça saisit les relations. Le raisonnement, c'est des relations. C'est un devenir constant. C'est pour ça que c'est si important de distinguer dans notre intelligence l'aspect raisonnement et l'aspect intelligence. Alors je précise, les raisonnements, nous savons tous ce que c'est. Hein? Les raisonnements le plus classique, vous savez qu'on dit habituellement, ça. l'homme est un animal, donc il est corruptible. C'est un raisonnement aussi bête que ça. Tous les raisonnements qu'on trouve, dès qu'on dit que, pour expliquer en géométrie, la somme des triangles, la somme des angles d'un triangle, je veux dire, de droit, bon, on raisonne, et le fruit, c'est la conclusion. Et ça donne une relation nécessaire. Donc, les raisonnements sont doubles. Il y a le raisonnement qui descend et qui conclut. Et le raisonnement qui monte et qui découvre. C'est du reste intéressant à voir, ça. Vous savez, un raisonnement qui monte et un raisonnement qui descend. On descend, on conclut, la conclusion, le fruit d'un raisonnement. Tandis qu'au contraire, un raisonnement qui monte, c'est ce qu'on appelle le point de vue. Le point de vue de l'épagogé en grec, qui est l'induction. Je passe du sensible au principe, et je découvre le principe, où je découvre une relation nécessaire. Tandis que le raisonnement qui descend, je découvre une conclusion. L'intelligence, elle, au contraire, son acte propre, c'est de juger. Du jugement. C'est pas le propre de la raison. Et vous avez un troisième opération dans l'intelligence, ce qu'on appelle l'appréhension. Voilà les trois grandes opérations d'intelligence. L'appréhension, on voit ça très fort dans ceux qui ont beaucoup d'intuition. L'intuition, c'est un jugement. C'est un jugement à base d'une saisie très forte d'une relation. Parce que toute intuition porte sur une relation. L'intuition ne fait pas découvrir les principes, mais fait découvrir une relation. Donc, je peux dire mon intelligence humaine commence par s'éveiller. Et si vous prenez maintenant l'ordre génétique pour mieux comprendre, mon intelligence humaine commence par s'éveiller. Elle saisit quelque chose. Ne mettons pas un ordre de valeur. C'est les trois grandes structures de ma vie intellectuelle. La saisie, c'est le moment imparfait. Saisie. Et très souvent, les gens restent dans ce point de vue de la saisie. Le jugement, c'est lorsque j'affirme ou je nie. jugement d'existence. C'est le jugement le plus simple. Le jugement le plus simple, ceci est. Et la négation, ceci n'est pas. Et le raisonnement implique ordinairement deux jugements. Ensemble pour avoir une conclusion. Donc c'est troisième jugement. Tout raisonnement implique trois jugements. On se sert de deux jugements antérieurs pour conclure quelque chose ou pour découvrir un principe. La vie de l'intelligence est complexe. Pas simple du tout. Mais c'est à la fois simple, parce qu'on voit très bien que la signification apparaît ici. Dans le jugement, on fait plus que la signification. On affirme, on nie. Ceci est. Ceci est bon, ceci est juste, on fait un discernement. Oui. Et puis, les raisonnements. Et alors, en réalité, la saisie est en vue du jugement, et le raisonnement utilise les jugements, mais sont moins nobles que le jugement. C'est comme l'effet, le résultat. C'est le jugement qui est l'acte le plus noble de toute ma vie intellectuelle. Alors là, vous avez la structure de la vie intellectuelle. Alors, il y a une question très importante. C'est que si le point de départ de ma vie intellectuelle, départ génétique, c'est de toucher la réalité, d'atteindre la réalité. Ceci est. Je ne m'intéresse qu'au réel, le réel. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie intellectuelle. C'est de chercher le réel, ce qui existe, l'homme qui existe. Si je pars de ce point de vue, ceci est. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose de concret ? Quelque chose de concret. Comment se fait-il que j'atteins l'universel ? On peut dire que c'est un des problèmes qu'on retrouve dans toutes les philosophies, de façon différente. C'est voir le lien qui existe entre le concret, le singulier, ce qui existe, et l'universel. Pierre, homme, tout se ramène à ça. Pierre, c'est concret, c'est quelqu'un qui existe. Homme, c'est un terme abstrait, universel, qui provient de homme. Mais comment ? Qui provient, je veux dire, du concret, Pierre. Comment je passe du concret à l'universel ? C'est une très grave question. Je vous dis que vous retrouvez dans toutes les philosophies, dites de diverses manières, voyez, le livre posthume de Merleau-Ponty, le visible, du visible à l'invisible. Le visible est concret. Vous n'avez jamais vu quelque chose d'abstrait. Sauf les fantômes. Mais même le fantôme, quand vous le voyez, il n'est pas abstrait. C'est vrai, j'ai jamais vu quelque chose d'abstrait. Vous voyez ce mur. la forêt. Et ils sont bien dans la forêt. On peut pas les attaquer, là. Ils sont tranquilles. Le concret, il est ou il n'est pas. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Est-ce que ça existe? Ce qui m'intéresse, la vraie, il n'existe que dans mon intelligence. Oui, alors là, nous touchons un petit problème qui est extrêmement intéressant pour la vie de l'intelligence. On va y réfléchir quelques minutes parce que je crois que c'est quand même le grand problème pour toute philosophie. Pour moi, c'est là où on voit si on a affaire à une philosophie qui est vraie ou si elle commence à dérailler. C'est très très simple, le passage de blanc. que l'intelligence humaine, si on ne fait pas grande attention, aime d'abstraire. Pourquoi ? Parce qu'elle saisit la chose dans toute sa pureté. Platon aimait de parler de l'animal en soi, de l'homme en soi. C'est donc abstrait. L'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Sauf le journal, vous voyez. Mais autrement, l'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Et c'est vrai, c'est ce par quoi l'homme est homme. Comme la bonté, c'est ce par quoi telle réalité est bonne. Alors pourquoi on aime ça ? Parce que on saisit, alors à ce moment-là, ce qu'est la réalité en elle-même, dans toute sa pureté. On la sépare de toute scorie. C'est vrai, le blanc du mur n'est pas le blanc dans toute sa pureté. Le blanc du visage n'est pas le blanc dans toute sa pureté. Or, je veux savoir ce qu'est le blanc. C'est l'intelligence qui interroge et qui veut savoir ce qu'est la réalité en elle-même et pour elle-même. Oui, c'est l'effort de l'intelligence qui veut aller plus loin que ce qu'elle voit pour saisir ce qu'on a appelé en philosophie la quiddité. Ce mot bizarre et baroque. Quiddité, c'est Aristote qui a inventé ce mot et Sartre l'emploie. D'Aristote à Sartre. Donc, vous voyez que ça dure. Vous voyez, la blancheur, c'est la quiddité. La quiddité du blanc. C'est-à-dire, qu'on appellera universel se présente à moi comme un universel générique, un universel de différents spécifiques, l'espèce, la propriété et l'accident. Il y en a cinq. Vous avez cinq manières de saisir la... Une autre modalité de connaissance. Alors là, on entre nettement dans une perspective philosophique ou scientifique. Ce n'est plus quelque chose d'instinctif, être naturel à l'homme, passer de blanc à blancheur. Je suis sûr que personne d'entre nous ne se rappelle la première fois qu'il est passé de blanc à blancheur. Peut-être qu'il n'a pas encore compris la différence. C'est pas arrivé. Non. Et qu'il n'a pas compris pourquoi on passait de blanc à blancheur. On a répété. On répète énormément dans la vie. Mais tant qu'on répète, on n'est pas intelligent. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence réclame l'autonomie. Il faut savoir pourquoi on pose ça. Et le langage, on se sert de langage, on l'a appris. On ne sait pas très bien pourquoi. Et on retrouve fondamentalement les cinq modalités d'universel. Mais l'autre manière, c'est le point de vue du jugement. Alors là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus calé. Ceci est. Ceci n'est pas. Alors, déjà, une petite constatation, un petit nota bene, mettez ça sur une petite phrase, parce que c'est intéressant à noter ça. De fait, nous sommes capables d'affirmer et de nier. Ça, c'est la vie intellectuelle. L'imagination n'affirme pas. C'est possible. L'imaginaire, c'est toujours du possible. Les sensations n'affirment pas non plus. C'est l'intelligence qui affirme. C'est l'intelligence qui nie. Alors, c'est un problème, moi, qui m'intéresse beaucoup, affirmation et négation. C'est un problème qui a intéressé énormément ça. Sartre, c'est le philosophe de la négation. Il donne priorité de la négation sur l'affirmation. Ça, c'est très net. L'être et le néant. Il y a une petite histoire de l'être et le néant. Ça va vous reposer, ça. Une petite histoire. Quand l'être et le néant est apparu sitôt la fin de la guerre. Alors, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. C'est authentique. Il va acheter du pain chez un boulanger. Il regarde ce qu'il y a autour, puis qu'est-ce qu'il voit ? L'être et le néant. C'est curieux. Un boulanger qui dit l'être et le néant, évidemment. On a quand même de l'influence sur les gens, la propagande. Mais c'est quand même curieux. 15 jours après, dans un autre coin, un autre arrondissement de Paris, même constatation. Troisième fois, un peu plus tard encore, l'être est néant, trois fois chez le boulanger. C'est quand même pas du pain, l'être est néant. Alors il se dit, ça c'était trop fort. Il demande au boulanger, mais comment se fait-il ? Vous lisez l'être est néant. Alors tu ris, l'autre rit. Même pas du tout. Mais ça pèse 50 kilos, 500 grammes. On n'a plus de poids, tous les poids ont disparu pendant la guerre. Alors, c'est merveilleux, on a 500 grammes, l'être et le néant. C'est symbolique, voyez. Alors, selon toute la grande tradition grecque, l'affirmation est première et la négation est seconde. Dans la vie de l'intelligence, cherche la vie d'intelligence. L'affirmation est première et la négation est seconde. Je crois que ce qu'on peut appeler la modernité au plan philosophique, c'est quand même intéressant de voir à quel moment la philosophie a déraillé. J'appelle ça un déraillement, moi. Parce qu'elle ne conduit plus à la sagesse. Si on fait de la philosophie, c'est pour la sagesse. Autrement, j'aime mieux les sciences. Parce que c'est plus exact. Mais si on fait de la philosophie, c'est pour connaître l'homme. Et pour connaître la finalité de l'homme. C'est connaître ce qu'est l'homme. Et le mieux possible. Or, modernité, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. C'est au cœur de toute la philosophie de Sartre. Et oui, là, c'est curieux, parce qu'on va contre le langage. Parce que le langage, ceci est, ceci n'est pas. Pour pouvoir dire ceci n'est pas, il faut que ceci est.
Comment il y a les Grecs et les
moderne, c'était la relation entre pensée et ce qui est. Pour les Grecs, ce qui est premier, pensée est second. Pour les modernes, après Descartes et après Occam, puisqu'il y a une dépendance très grande entre Occam et Descartes. Après Descartes, puisque c'est lui qu'on connaît habituellement, pensée est premier et ce qui est second. La pensée mesure le réel, alors que pour les Grecs, le réel mesure la pensée. Si la pensée mesure le réel, la négation est première à l'affirmation. Ça va vous donner des cauchemars. C'est pour vous montrer la vie de l'intelligence. Elle est où ? En union avec le réel. Où elle est à partir de ce que moi, je peux inventer. Ça fait deux mondes différents. La primauté de ce qui est, ou la primauté de la pensée. En réalité, ma pensée est faite pour connaître l'homme. C'est pour me connaître, connais-toi toi-même. Socrate. Et Socrate ajoute, connais-toi toi-même et les dieux. Mon intelligence est faite pour connaître la réalité. Mais connaître la réalité, c'est pour justement, je suis à la fois dépendant de la réalité, je la reçois, je la connais, mais en même temps, je la dépasse, puisque je la connais, sous un certain aspect. Et c'est mon intelligence qui progresse, qui vit, et c'est mon intelligence qui appréhende, qui juge et qui raisonne. La négation, c'est l'exaltation de moi-même. Je suis, au fond, il y a toujours une certaine satisfaction de nier. C'est très curieux. Non, c'est pas ça. Mais dans une discussion, tout le monde dit oui, puis tout d'un coup, il y a toujours celui qui dit non. Au service commandé. Et il dit, non, non, c'est pas ça. Toujours. Il y a une certaine exaltation de ne pas dépendre d'une réalité antérieure et de pouvoir soi-même dire non. Donc en niant, on s'exalte. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais nier, qu'il faut, de temps en temps, il faut nier, c'est sûr. Mais celui qui met la négation toujours en premier lieu, ah non, c'est pas ça, ah non, c'est pas ça. Tout simplement parce que ça ne vient pas de lui. Tout ce qui vient de lui